une taverne du vieux Londres où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre et nous écoutions nos cœurs chanter.
À tous, je m'ennuie bien et dans la place, on a tous très chaud.
Non, ça va moi.
Ah bon, très bien. Mais on fait le, ça c'est les privilèges de la calvitie. Mais nous sommes présents et nous sommes au rendez-vous. Voilà, nous allons passer une heure ensemble.
Bonsoir Madame Henriette.
Bonsoir.
Bonsoir Madame Ginette. Bonsoir Monsieur Kogan.
Ah ben voilà, vous nous l'avez vexé là.
Exactement. Je ne dirai plus rien, je m'en vais. En plus, faut être clair, moi j'ai vraiment l'impression qu'heureusement que nous n'avons rien fait pour améliorer le dérèglement climatique. Sinon, qu'auraient dit les gens ? Ils auraient dit, regardez, on serre la ceinture là depuis 3 ans, regardez ce qu'on a en mai. Voilà, ils auraient gueulé, ça aurait été horrible.
Ah, qui aurait pu prédire ?
Exactement. Tandis que là, on ne fait rien, donc au moins, voilà, on assume après. Allez, quelques petits titres. Cagnotte, je l'ai gardé parce que bon, il faut quand même qu'on sache à quoi nous attendre. Le proche de Zemmour, Jean Messia, accusé d'avoir encaissé les 42 000 euros destinés aux veuves des victimes de l'évasion de Mohamed Amra. Alors oui, évidemment, il a prétexté un problème informatique. Hein, voilà, il a bon dos l'informatique.
Oh, ça a bugué.
Ah là là.
Ça a bugué fort à 42 000 quand même. Hein.
Ouais, et ils nous déçoivent jamais quand même.
C'est ça. Je ne sais pas ce qui me tue le plus, ce qui s'est passé ou le fait que je n'ai pas été surprise.
Je rappelle qu'au municipal, il a fait 3%. Voilà, il y a une justice des fois.
Oui, bah, c'est ça. Parce que sa maman et puis sa famille et puis voilà.
Alors, c'est un peu passé sous les radars, mais nous sommes en train de nous fâcher avec la Suède. Et ça va déplaire à Madame Henriette.
Mais pourquoi ?
Comme si nous interdisions les baguettes françaises, entre guillemets. La Suède furieuse après la décision de Paris d'interdire les sachets de nicotine. Apparemment, en Suède, ils adorent ça et ils ne comprennent pas qu'on leur interdise de vendre ça partout.
D'accord, mais les sachets de nicotine, c'est quoi, pourquoi, comment ?
Ben pour le priser, j'imagine, pour le sniffer. Pour
c'est ça.
D'accord.
C'est la belle vie, Madame Henriette.
En effet.
On voit que vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas vous amuser.
Probablement pas.
Alors d'autres, deux
après,
gamins.
J'aime pas la baguette non plus, donc.
Deux gamins qui savaient mais s'amuser. J'ai gardé ce titre horrible parce que même le Monde l'a tourné quand même de façon bizarre. Mort d'un enfant à Rennes, deux adolescents disent avoir voulu se venger et récupérer du matériel de pêche. Mais là vous dites, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Monsieur Le Monde ? Alors en plus, évidemment, tout le monde a vu les détails. À leur âge, donc des ados de 15 et 16 ans, ils ont réussi à étrangler un enfant de 11 ans. Non, mais c'est horrible.
Avec une serviette mouillée, il n'y a rien de plus.
Je ne sais pas, qu'est-ce qui leur passe par la tête, mais là, c'est du matériel de pêche. Mais on ne sait pas où on est, en fait. Hein. Alors, il y en a un autre qui ne savait pas du tout où il était. Des tirs près de la Maison Blanche, l'assaillant qui a été abattu disait être le vrai Oussama Ben Laden.
Ah, j'ai cru qu'il se prenait pour Jésus. Non,
bon, c'est un autre type de Jésus, on va dire. Je sais pas.
Bon, cette fois-ci, c'était pas Elvis Presley. C'était d'accord.
Okay. En même temps, il doit être content. Il a fini comme lui, abattu, quoi. Bon. Allez, justement, on en parlait hors antenne. On va tout de suite à Birmingham. Donc, c'est où ça, Birmingham ? C'est dans quel coin, Madame Ginette ?
West Midlands. Donc, c'est en Angleterre. Donc, West Midlands, c'est la région d'Angleterre.
Quand une prière islamique ouvre le conseil municipal de Birmingham. Oh yeah ! Ils savent rire là-bas quand même.
Alors, je rappelle qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes lois sur la laïcité de l'espace public que nous. Voilà.
Alors ça a quand même fait beaucoup de bruit, ça a quand même bien scandalisé. Hein.
Ah oui, oui.
Même s'ils ne sont pas soumis aux mêmes lois.
Bon. Oui, alors ce qui était rigolo, c'était le sous-titre de cet article.
C'est mais quoi, voilà, parce que jusque-là...
Vous n'avez pas lu jusque-là, monsieur Edmond.
De quoi ? Dans la deuxième ville française, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Le conseil, c'est où ? Ah, oui. Ouais, bah écoutez.
Voilà, donc Birmingham est la deuxième ville française.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu
pour. Donc visiblement, nous avons annexé les West Midlands. Pourquoi pas? C'est un super joli coin, donc moi je suis pour. Je suis pas sûre que les autochtones soient aussi pour que moi, mais bon.
Et alors là, problème juridique, si la France annexe la région de Birmingham, c'est Union européenne ou pas? Ah ben oui, non mais là, attendez,
non mais Madame Henriette, oh là là, non mais ces gens du droit, hein.
Que vous êtes taquine.
Ouais.
Ah ben non, mais faut prévoir les problèmes avant qu'ils arrivent.
Allez, on reste en Angleterre. Madame Henriette l'a évoqué en tout début d'émission. Je pense qu'elle avait suivi ça de très près. Au Festival des Chauves à Londres, ouvrez les guillemets, la révolte a commencé. Pas de cheveux, pas de regrets. Donc c'était le slogan de cette année, parce que c'est pas la première année qu'ils font ça, voilà. Et donc c'était à Soho, quartier très connu de Londres. Et donc ils appellent ça le Bald Fest. Je sais pas comment on dit. Bald. B-A-L-D Fest. Voilà, pour quand
vous avez... Le pire de tout ça, c'est que je viens de vous envoyer ça en message. Donc, je viens de découvrir cet événement.
Ah bon, mais vous vouliez l'annoncer dans le... Non, c'est trop tard pour la jeune dame, monsieur Cogan.
Pas du tout.
Voilà, voilà. Alors, je suis tombé... Alors, j'ai lu quelques trucs, évidemment, ça m'intéressait. Alors, il paraît que c'est un traumatisme quand vous passez, vous faites le rite de passage pour, en fait, pour qu'on ne voit pas votre calvitie. Ben, le plus simple, c'est de vous raser entièrement la tête. Donc, voilà.
Ok.
Et alors après, dans l'article, ils disent « Un processus souvent long et pénible, la perte excessive de cheveux, qui touche 56 millions de personnes dans le monde. » Moi, je trouve que ça fait vraiment pas beaucoup, quand même.
Je dirais beaucoup plus.
Parce que rien qu'autour de moi, j'ai envie de dire... ou alors, ils sont tous en France, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quand même. Bon, allez, c'est pas grave.
Ça me paraît peu, mais après...
Ouais, bon. Après, oui, on n'est pas spécialiste capillaire. Justement, on approche de l'été, donc je suis allé voir l'actualité mode... afin de me présenter honorablement sur les plages françaises cet été.
Avec un summer body et tout.
Ah ben, et alors vous allez voir la tendance, je peux vous dire, il faut commencer par faire de la musculation et acheter éventuellement une plus grande voiture. Écoutez bien, tendance été, 19 indispensables modes pour calquer le cool des surfeuses. Donc l'accessoire mode cet été, c'est la planche de surf, mes amis. Donc je ne sais pas si ça va être simple partout.
Ah ouais,
alors, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une tendance du printemps qui est en train de se transformer en tendance de l'été, mais plus dans les milieux masculinistes, hein, donc c'est des gens, on ne veut pas être comme eux, qui est le ball maxing, qui consiste donc à maximiser ses balls, donc ses testicules, en y injectant de l'eau jusqu'à arriver, quand on a de la chance, à une taille entre la mandarine et le pamplemousse. Donc, je n'ai qu'une question, c'est pourquoi?
Ah, dis donc, avec deux pamplemousses là, pour s'asseoir, ça ne doit pas être simple quand même. Ça doit glisser, on ne doit pas arrêter de sortir de la chaise.
Alors, il y a très 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 longtemps dans cette émission, il y a des années, nous avions fait, je crois que c'était vous, Monsieur Edmond.
Oui, une petite chronique.
Une chronique sur des pays d'Asie du Sud-Est,
C'était l'Inde, je crois.
Où l'on s'injectait de l'huile d'olive.
Mais pas dans les boules, dans le pénis. Hein,
voilà.
Pour que ce soit plus long.
Oui, tout à fait. Eh ben, écoutez, l'huile d'olive dans le pénis, l'eau dans les testicules. Nickel.
Et après, et ça nous paraissait complètement stupide à l'époque.
Comme quoi, la stupidité...
Et oui, mais maintenant qu'il y a des gens qui ont des pénis gorgés d'huile d'olive qui ressemblent à des troncs de baobab, il faut bien arriver à harmoniser le truc.
Bon, c'est n'importe quoi.
C'est une question d'esthétique, en effet.
Exactement.
Bon, Fof, le monde va tellement bien.
Allez,
le monde va bien.
Une petite brève que je n'ai absolument pas compris, mais bon, comprise, pardon. Pour son mariage champêtre avec Jack Whitehall, Roxy Horner, alors je ne sais pas qui c'est, hein, portait deux robes de mariée et a choisi des références.
Mais l'une
sur l'autre, ou... Ben, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir, mais je n'ai pas compris comment on pouvait porter deux robes de mariée.
Il faut qu'elle soit vraiment minimaliste.
D'accord, c'est parce que pour en cacher une robe de mariée peut cacher l'autre, c'est ça?
Ah oui, c'est amusant.
Je sais pas.
Est-ce qu'on peut mettre un panneau à l'entrée de la noce? Attention, une robe peut en cacher une autre.
Ou elle se mariait deux fois, enfin, je ne sais pas. Donc elle en a enlevé une pour se marier tout de suite avec un autre gars, je ne sais pas.
Ben non, puisqu'il vous parle du mariage avec
une seule
personne.
Ah ouais, il y a le nom du gars, je ne sais pas. Ben, pourquoi faire, je sais pas. Bon.
Ou après, il y a
peut-être... pas mal de gens qui ont plusieurs tenues pour leur mariage, mais c'est juste, c'est pas qu'ils portent de robes, enfin, elles portent de robes.
Alors, c'est dit bizarrement.
En route, ils se changent, en fait. C'est mais pas pareil.
Vous n'êtes pas allé lire l'article et on n'en sait pas plus.
Ça vous intéressait, donc.
Exactement. Non, je n'ai rien à cirer. Mais par contre, voilà. On peut pas annoncer la moitié d'une info, enfin.
Ah non, elle est complète, l'info. Hein. C'est juste qu'on ne sait pas pourquoi. Allez, c'est une info qui va vous intéresser, Madame Ariette, puisque vous nous en avez parlé. Alors, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou un peu avant. C'est donc l'ouverture d'un centre Pompidou
à Séoul.
À Séoul. Eh bien, il y a une tribune d'artistes, de collectifs, d'intellectuels qui demandent le boycott de ce centre pour la rupture du partenariat entre le centre Pompidou et le géant coréen de l'armement, Hanwha. Et donc, en fait, ce centre, il est installé là-bas à cause de cette entreprise. Et sur le, effectivement, c'est marqué Centre Pompidou et je sais pas quoi, Hanwha. Et comme c'est une entreprise d'armement, bon, ben, y a des gens qui disent que bon, l'armement, la culture, en général, c'est bof quand même.
Ah, c'est les joies du financement privé. Hein. En général, c'est quelqu'un qui a quelque chose à y gagner. Hein.
Certes, mais bon, là...
Et qui a besoin de redorer son image.
Allez, avant de donner la parole à Madame Ginette, je suis tombé sur un rapport... concernant le numérique éducatif. Et donc, il y a quelques infos sur les jeunes et le numérique. Que nous apprennent les données de l'ADEP ? Alors, l'ADEP, c'est la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance à l'éducation nationale. Je ne savais même pas que ça existait, mais bon, c'est bon. Le titre
et donc,
est magnifique.
Ça s'écrit comme Johnny Depp.
Ça s'écrit D-E-2-P, Johnny Depp ?
Bah oui.
Ah bah écoute, oui. J'espère. J'espère qu'il picole moins là-bas, mais bon. Alors... Près de 2 collégiens sur 3 ont une maîtrise satisfaisante des compétences numériques leur permettant d'utiliser les outils numériques de façon raisonnée, sécurisée et éco-responsable. 2 collégiens sur 3, mais où sont-ils ? Alors j'en ai même pas rencontré un seul qui fait ça. Alors 2 sur 3, mais comment ils ont fait pour calculer ?
Ils sont tous à Birmingham, la deuxième ville française.
Non mais c'est hallucinant quand même, c'est un truc de dingue. Je sais pas comment ils ont fait là, sérieux. 75% des élèves scolarisés en petite section de maternelle regardent les écrans ou jouent sur les écrans. 75% en petite maternelle.
Là, ouais, par contre, on sait où on les trouve. Hein.
Oui, ouais. Là, on les voit bien, on est d'accord.
Dans la rue, n'importe où,
Mais alors là, ouais, bon. Alors, après, il y avait un tableau qui était intéressant, vous allez voir pourquoi, Madame Ariette. Score moyen en littératie numérique selon le statut socio-économique national.
Alors déjà...
Oui, moi ça m'a fait ça aussi, je me suis dit...
Pouvez-vous être plus spécifique ?
Oui, mais je vais l'être. La littératie numérique. Excusez-moi, je vais vous lire la définition. Accrochez-vous à ce que vous pouvez. Non, pas au pal du ventilateur, non, lâchez ça. À travers le syntagme littératie numérique, nous désignons...
Déjà ça commence tellement bien cette phrase.
Nous désignons une part de la littératie liée à l'usage du matériel informatique et d'Internet. Nous référons...
Super. Alors un rouge.
Ah ouais, vous allez voir, nous nous référons à la définition de la littératie que propose l'OCDE. Donc évidemment, là, on n'a qu'un bout de la définition puisque c'était avant l'apparition d'Internet et tout ça. Donc la littératie, c'est une aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante. L'information écrite des âges... Bon, attends. À la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Sur le papier, ça a l'air très beau quand même.
Ça veut dire savoir lire, non ?
Ouais.
Voilà, c'est
ça. Oui, c'est ça, en gros, hein.
La littératie numérique, dans ce contexte, vient s'adjoindre à des formes plus traditionnelles de littératie et implique des compétences spécifiques. Elle amène notamment à lire des supports variés, mobilisant différents langages ou modes langagiers, iconiques, textuels, cinétiques, sonores. Donc vous êtes illettré, mais vous allez peut-être pouvoir faire de la littératie numérique, voyez ? C'est beau quand même. Les chercheurs québécois, Lassel, Boutin et Lebrun, définissent ainsi, et de façon très précise, la littératie numérique. Enfin. Ouvrez les guillemets, mes amis, vous êtes bien dans Je m'ennuie bien. Attention, je prends ma respiration. C'est la capacité d'une personne à mobiliser adéquatement, en contexte communicationnel, synchrone ou asynchrone, les ressources et les compétences sémiotiques modales et multimodales les plus appropriées à la situation et au support de communication numérique à l'occasion de la réception et ou de la production de tout type de messages.
Ok, donc c'est en gros la capacité à écrire un mail, hein.
Non, vous, enfin, Madame Ginette, vous voyez bien que ça déborde tout ça. Ça déborde tout ça. Bon,
vous abîmez tout, Madame Ginette.
C'est ça.
Donc, dans la capacité à écrire un mail et à se servir correctement de son smartphone, arrive en tête à l'échelon mondial.
La Corée.
La Corée
du Sud, hein, puisque la Corée du Nord,
la République de Corée.
La Corée du Nord, on ne sait pas s'il y a toujours des gens vivants de toute façon.
Juste devant les Tchèques, c'est incroyable. Bon, nous, on est bien dans le tableau, mais bon, vu comme ils ont l'air de calculer les jeunes, enfin bon. Et donc, on a également un score moyen en pensée informatique. Alors, toujours, ils font deux
la
trucs.
Pensée informatique. Ouais,
la pensée informatique.
La pensée informatique. Mais
et là, arrive en tête. Arrive en tête.
La pensée informatique. Non, là, je sèche.
Taïwan. Devant la République de Corée.
J'étais pas très loin.
Non, la Chine, je ne sais pas si, à mon avis, ils ne participent pas au truc parce qu'ils n'apparaissent même pas dans le tableau.
Ah.
Donc, je ne sais pas. Ils ont peut-être dit non, elle est pourrie, votre, on ne la fait pas.
On est premier ? Non, bah, ça ne nous intéresse pas.
Allez, pour finir, j'ai demandé à Madame Henriette d'avoir à portée de main un petit son. Je vais vous amener à l'Assemblée nationale parce que moi, j'avais l'impression qu'il ne se passait plus rien du tout. Et en fait, il y a des débats fort passionnants à l'Assemblée nationale en ce moment.
Ah ben oui, il y a eu l'annulation du code noir, c'est vrai que...
L'abrogation alors, du code noir.
Ouais. Alors là, c'est...
Quelques siècles, ouais. Ouais.
Bon, là, c'est symbolique, mais là, non, mm-hmm. C'est quelque chose de très pratique, vous allez voir. Alors, je remercie la députée Gabrielle Catala pour le son que vous allez entendre, qui s'est quand même dit, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une députée...
Personnage intéressant, hein,
ouais. Députée LFI du Val d'Oise, on l'écoute.
Cela va vous surprendre, mais nous sommes entièrement d'accord avec Monsieur le Ministre. Je trouve ce débat hallucinant. Nous avons des amendements RN, LR, Bloc Central, PS pour autoriser des lunettes thermiques pour des chasseurs, alors que Monsieur le Ministre l'a rappelé, il s'agit d'armes de guerre. Et tout cela alors que nous n'avons aucun débat sur la chasse en général. Moi, je préférerais qu'on ait un débat sur l'interdiction de la chasse le week-end, l'interdiction de la chasse la nuit, l'interdiction des chasses cruelles comme la chasse à cour, la chasse à la glu, la vénerie sous terre et les pratiques plus cruelles en général comme l'interdiction de la corrida. Et vous vous présentez comme des défenseurs du milieu rural, mais 75% des ruraux sont contre la chasse le week-end, sont contre la chasse le dimanche, sont contre les pratiques cruelles. Et ils en ont marre de se sentir en danger lorsqu'ils se baladent.
Merci,
et vous
Madame
les mettez en danger avec ce genre d'amendement.
Merci, Madame la députée. On va tous redescendre d'un volume.
Voilà, là, c'est magnifique. Vous voyez les débats en cours. Donc, évidemment, des amendements qui ont été poussés, on ne va pas les nommer, mais par la FDSEA et les jeunes agriculteurs. Hein, parce que bon.
Ah, c'est raté, vous les avez nommés.
Ah mince! Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, il y a plein d'amendements sur le même sujet, parce qu'en fait, chaque département, il y a sa fédé qui va voir son député pour lui dire « Eh, gars, regarde, il nous faut des lunettes thermiques pour pouvoir aller canarder les loups la nuit !»
Alors, attendez, par contre, parce que déjà, on a des armes qui tirent beaucoup plus loin que ne voit l'œil humain, hein,
ouais.
Pour des armes de chasse classiques. Hein, et on va rajouter des lunettes thermiques.
Mais c'est pour
et
tirer
ça,
la nuit.
Oui,
c'est
mais ça nuit, sera Madame vendu Mariette. Dans des magasins auxquels tout le monde a accès.
Ah bah oui, si vous êtes chasseur.
Est-ce
après...
qu'on est bien certain que ça ne va servir qu'à la chasse ?
Mais bien sûr, Madame Henriette, tout ça est très encadré.
Est-ce qu'on est bien certain que les chasseurs ne s'en serviront que pour la chasse ?
Alors petite nuance quand même, peut-être, petite nuance sur ce débat. D'abord, il va falloir adapter la législation parce que théoriquement, la chasse de nuit est interdite. Ça, c'est un premier point. Donc, je n'ai pas très bien compris.
Ça fait partie des amendements, en fait.
Non, c'est... Ah ouais, oui, et puis en fait, c'est...
Ça va servir cette mm-hmm. lunette. Et puis,
il y a une petite côté d'amendements qui vont dans ce sens-là.
Ouais, donc, je pense que ça ne passera pas d'un point de vue légal. Et puis, franchement, je pense que c'est des tilotests dont ils ont besoin, les chasseurs. Ce n'est pas de lunettes thermiques. Voilà.
Monsieur Kogan, il va se faire des potes.
Avec vous.
Voilà. Donc,
mais alors, voilà. Après, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est qu'ils aient des lunettes tout court.
Ah oui, ça peut les aider, effectivement, Madame Henriette. Qu'ils arrêtent de confondre un cycliste avec un chamois.
Je vais être le seul à avoir le permis de chasse dans cette émission. Donc...
Monsieur Kogan, pour vous resituer, en fait, c'est que ça part de... Vous savez que ça part de défense des troupeaux contre le loup. Et donc,
oui,
les agriculteurs, par exemple, ont le droit de tirer même la nuit contre le loup. Et donc, voilà.
Ça s'appelle des tirs de défense et c'est très, très, très réglementé. Donc, moi, j'entends leur idée, mais bon, ça suffit maintenant.
Qu'en plus, franchement, il suffirait de mettre des mines. Pourquoi des lunettes à visée nocturne ? On met des mines autour des troupeaux et c'est bon.
C'est super. Et d'un côté, on a le gigot, de l'autre, la pelote de laine, déjà toute prête.
Exactement. Allez, Madame Ginette, c'est à vous.
Eh bien, bonsoir. C'est bien, je vais parler d'autre chose parce que vous êtes sur un sujet sur lequel je n'ai aucune nuance et aucune pitié. Donc, bref, nous allons d'abord aller en Dordogne, figurez-vous. En Dordogne, où un couple de passionnés de pétanque va jusqu'à faire dans son jardin un petit boulodrome privé pour pouvoir faire de la pétanque avec les potes et tout. Enfin bon, bref, jusqu'ici, tout va bien. Et ils se rendent compte que leurs boules de pétanque disparaissent. Et au bout de 19 boules de pétanque qui disparaissent quand même, ils se disent, bon, ben là, il y a un truc quand même, il y a une sorte de
il y a un rituel. Loup, oh, pardon.
Donc, ils installent des caméras de vidéosurveillance. Alors non, ce n'est pas un loup, mais qui volait leurs boules? J'adore cette phrase.
C'est beaucoup.
Ouais, leur boule à laquelle on avait mis de l'eau.
Non, ça suffit. Ah,
voilà, alors vous le maxez à l'eau, bien sûr.
Alors, ça peut pas être les pies. En général, on accuse les pies quand quelque chose. Mais là, beaucoup trop gros.
Madame non, Ginette,
la page des oiseaux.
On parle bien de la Dordogne à côté de Liverpool.
Exactement,
celle-là.
Bon. Tout à fait.
Celle-là, oui, tout à fait.
Tout à fait.
Alors, qui peut voler des boules? Des vraies boules de pétanque, hein, on est d'accord. Hein,
des c'est... vraies boules de pétanque, oui.
Pas celles en plastique pour les enfants.
Non, mais là... On est face à des amateurs éclairés. Hein. Ils ne jouent pas avec les boules en plastique remplies d'eau pour le coup.
Qui c'est qui aurait besoin de lester quelque chose? Un crocodile pour lester ses victimes?
Alors, c'est un animal fouisseur?
Oui.
Oh, ce serait... Donc, les boules ne disparaissaient pas, elles passaient sous terre?
Ah non, pas du tout. Ils les ont toutes retrouvées au même endroit, car l'animal, car vous avez compris, cet animal qui les prenait avait apparemment une sorte de petite collectionnite.
Non, mais il devait en faire quelque chose, sûrement.
Non, c'était vraiment en collection.
C'était
en
fait, un animal qui était. C'était un artiste, quoi. Il faisait une installation dans son terrier.
Mais alors, qui a la force de. Ah, donc un blaireau.
Un enroulé.
Non.
Alors, qui a la
force. Un raton laveur.
Qui a la force.
Non,
d'amener
un renard, figurez-vous.
Un renard, mais c'est énorme une boule de pétanque pour un renard.
Oh, eh bah ouais, bah, ils ont mis une caméra, ils ont vu un renard, le renard en train de leur chourer une boule de pétanque, hein, ce qu'il faisait de mieux. Donc ils se sont arrangés pour le suivre et en fait, dans sa maison de renard, il y avait les 19 boules de pétanque.
C'est magnifique.
Il avait une sorte de marotte, de collection en fait.
Ouais, non, mais là il va falloir faire des suivis pour les renards maintenant. Hein.
C'est ça.
Et il avait laissé le cochonnet?
Bah alors je
c'est bizarre pour un renard.
En revanche, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il joue à la pétanque ou est-ce que juste il collectionne parce qu'il trouve ça joli?
Je sais pas. Ouais.
On ne sait pas trop, mais 19 boules, il y a de quoi inviter quelques potes pour faire une partie quand même.
Bah, c'est ça.
En même temps, vous regardez, entre boule et poule, il n'y a qu'une lettre de différence.
Hein. Coïncidence?
Je ne sais pas. Madame Ginette, non, je m'en dis bien.
Voilà, je vous amène maintenant à la capitale, où Marc Guillaume, ancien préfet de Paris, est devenu vice-président du Conseil d'État. Bon, ça, j'imagine que Madame Henriette le sait, hein, passion le droit. Mais avant qu'il s'en aille, il a fait un petit pot de départ, comme tout un chacun, et ses collègues fonctionnaires lui ont fait un cadeau personnalisé. Quel est-il?
Les 19 boules de pétanque du couple de Dordogne.
Non, rien à voir, le renard est innocent, laissez-le.
Qu'est-ce qu'on peut bien offrir à ce genre de personnage? Quelqu'un qui va au Conseil d'État, Madame Mariette, c'est pour vous ça? Qu'est-ce qu'on leur offre?
Il passe de la préfecture au Conseil d'État.
Je ne sais pas, une édition plaquée hors des grands arrêts de la jurisprudence administrative.
Alors, on aime rire. Il y avait du doré aussi.
Ah, il y avait du doré. Du Julien Doré? Un album de Julien Doré?
Non.
Bon, d'accord.
Alors peut-être, mais c'est pas de ça dont je parle. Une mèche de Julien Doré? Non plus.
Oh, c'est là on sent quand même une certaine fascination, une mèche de Julien Doré qui aurait été dorée elle aussi.
Et n'empêche que lui, s'il faisait l'animation là, au truc des chauves à Londres, ce serait génial.
Mais il serait viré.
Ben, c'est-à-dire qu'il peut pas, oui. Il est disqualifié en fait.
Ouais.
Exactement. Mais bon, bref, Marc Guillaume, son petit cadeau de pot de départ.
Alors, j'espère
qu'il fera bon usage.
Un fouet?
Un petit marteau en or, mais non, on ne tape pas au marteau au Conseil d'État, c'est n'importe quoi.
Alors, non,
mais ce serait
fouet,
rigolo.
Marteau, et je trouve que vous devenez bizarre.
Un stylo.
Non, mais ma réponse est bizarre aussi, hein, c'est juste que la mienne est vraie.
Ah, d'accord. Bah, allez-y, Madame Ginette, dites-nous tout.
Eh bien, ils lui ont fait customiser un slip kangourou.
Oh.
Mais non.
Quel bon son kangourou bleu doré, serti de rameaux d'olivier et de feuilles de chêne, de gland et du logo de Paris 2024.
Non, mais sérieusement.
Et ça, ça sort dans la presse.
Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui, en a parlé.
Dans la détresse du midi.
Ah, évidemment. Mais en fait, il y a quand même quelqu'un qui en a parlé. Et ça, c'est pas des amis.
Je sais même pas
désolée.
Si ça se faisait encore les slips kangourous. Moi, j'en vois pas. On en trouve encore des slips kangourous?
Je sais pas, mais.
Bah, apparemment, ils vont en trouver un.
Ah ouais. C'est pas simple.
Il
hein.
voulait lui faire, je cite, de point ouvrir les guillemets, un slip VIP.
Ah non, là, c'est vraiment très mauvais goût.
Oui, là, c'est, je vous dis, et puis en plus, aller le balancer ensuite, non, ce monsieur, il...
Il méritait pas ça.
Voilà, ouais, y a des gens dans son entourage qui ne lui veulent pas de bien.
Ouais. Exactement.
Ouais. Bon, et donc...
Mais je voudrais quand même finir par une bonne petite nouvelle mignonne.
Mais allez-y, oui. Allez-y.
Du 18 au 22 mai dernier, le WWF, en partenariat avec l'Éducation nationale et une fondation dont le nom m'échappe et je m'en excuse, ont créé un programme qui s'appelle l'Appel de la nature. À votre avis, en quoi cela concernait consistait-il? Voilà. Ouh là, j'en perds.
L'Appel de la nature.
En tout cas, ça n'a pas réussi à la directrice du WWF, hein, la pauvre.
Non, modérément, mais cependant.
Alors, est-ce que ça concerne un public particulier, des enfants, par exemple?
Alors, tout à fait, puisque c'est en partenariat, entre autres choses, avec l'Éducation nationale.
Des petits, des grands, des moyens, tous les âges?
Un peu tous les âges, puisque ça concernait plutôt des écoles, en l'occurrence 4000 écoles.
Ah ouais.
L'appel de la nature. Classique, une journée en forêt?
Non, restez dans leurs écoles respectives.
Ils ont planté quelque chose?
Non.
Qu'est-ce qu'il... Ben, je sais pas, hein, Madame Ginette. Hein. Monsieur Kogan, vous n'avez pas d'idée, l'appel de la nature?
Ils ont analysé l'eau des pichets de la cantine pour y trouver tout un tas d'animaux rigolos, mais microscopiques.
Non, c'est le but, c'est peut-être de perdre deux enfants dans une forêt portugaise, non c'est... Oh là là.
Oh, bravo. Belle mentalité. Voilà,
cette émission est placée sous le signe du sordide, j'aime ça. non, figurez-vous que toute la semaine, donc 4 jours, hein, puisque les bruits de sonnerie étaient remplacés par des bruits d'animaux.
Oh, c'est rigolo ça.
Mais bien fléché, c'est-à-dire en expliquant aux enfants de quoi il s'agissait, c'est-à-dire le lynx boréal le lundi, la guifette moustaque, qui est un oiseau, le mardi, le loup le jeudi et le cachalot le vendredi.
Ah, je fais très bien le cachalot si vous voulez.
Eh ben, vous auriez pu aller... Eh ben, vendredi 22 mai, vous faisiez quoi?
Ben, c'est ça.
Je faisais la sonnerie.
Je faisais le tour des écoles et je faisais le cachalot.
Ben, voilà.
Bon, ok. Et pourquoi
ça
ils n'ont pas regardé ça?
Ça ne rend pas très bien au micro.
Non? Ben, dommage.
Donc, le but étant de sensibiliser dans les écoles de manière rigolote.
Ben oui,
manière
avant...
méta, parce
et puis, avant que tous ces animaux aient disparu, il faut bien qu'ils les aient entendus une fois, je comprends.
Voilà, c'est ça. Mais je trouvais ça plutôt mignon. Et bon, je n'ai plus dans les écoles depuis fort longtemps. Hein, mais je trouve qu'on devrait faire ça tout le temps. C'est beaucoup plus rigolo que les sonnettes bizarres qui font mal à la tête.
Oh, maintenant, on met de la musique.
Oui, dans les établissements bien fréquentés.
Ah.
Allez, ben, Madame Ginette, c'était un plaisir de vous avoir avec nous.
Plaisir partagé.
Et maintenant, on passe la main à Madame Henriette, si vous avez quelque chose.
Bah écoutez, puisque oui,
un
j'ai
petit
plusieurs
quelque chose.
Choses. Oula, alors déjà, on va commencer par une info qui n'a rien de rigolo.
Et pourquoi vous nous la donnez alors?
Parce qu'elle est utile. Donc, vous savez qu'on recense régulièrement les oiseaux. Donc, c'est un partenariat entre la LPO et le Muséum National d'Histoire Naturelle, avant qu'il s'écroule, puisque vous avez probablement entendu parler de l'état désespérant des bâtiments. Et donc,
Si je suis allé il y a quelques jours, ça allait.
Vous en avez pas profité pour faire un petit coup d'enduit avant de partir quand même?
Ah, j'ai eu la chance donc de voir le crâne de Descartes et c'est magnifique.
Et oui, maintenant qu'on sait que c'est le crâne de Descartes.
Madame Henriette.
Donc, il y a deux comptages dans l'année, donc le premier c'est en janvier et le second, eh bien, c'est le dernier week-end de mai, c'est-à-dire les 30 et 31 mai.
Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? On peut compter nous?
Oui, bien sûr. Il faut donc se trouver un site d'observation, un jardin privé, public, comme vous voulez, une cour, un balcon, voilà. Et pendant une heure, vous comptez et vous essayez de nommer les oiseaux qui visitent ce site. Vous avez des fiches d'identification qui sont disponibles. Il suffit d'aller sur le site du muséum. Du Muséum national d'histoire naturelle. Et puis ensuite, il faut aller saisir vos données sur l'Observatoire des oiseaux de jardin. Vous avez tous les liens sur le site précité. Voilà.
On a droit aux lunettes à visée thermique ou pas ?
Si vous voulez, mais par contre, il ne faut pas tirer dessus.
Ah oui, il faut les compter juste.
Oui, voilà.
Madame Henriette, autre chose peut-être ?
Oui, alors juste pour vous donner des... voilà, hein. La semaine dernière, j'ai parlé sans doute pour la première fois de foot, donc je termine quand même, puisque ça y est, les résultats sont connus. C'est l'équipe de Corée du Nord qui a remporté la Ligue des champions féminines de la Confédération asiatique de football. Voilà, la finale les opposait à l'équipe de Tokyo. Elles ont gagné et elles sont reparties en Corée du Nord de façon tout à fait protocolaire, c'est-à-dire sans adresser un regard ni un sourire à qui que ce soit. Mais enfin, a priori, c'est important pour leur conservation à elles, même si ce ne sont pas des oiseaux. Voilà. Donc, vous le saurez. Elles ont gagné. Peut-être que ça leur évitera des désagréments. Et puis, je voulais vous parler de Corée du Sud et surtout de la folie autour des entreprises de semi-conducteurs.
Ah
et
oui,
semi-conducteurs dont on a besoin pour les énormes centres de données. Et oui, quand vous faites une recherche qui aurait pu être faite sur Google sur un moteur d'intelligence artificielle, eh bien, ça coûte
une énergie
folle et il faut des semi-conducteurs pour ça. Et donc, la capitalisation des entreprises s'envole et donc ces entreprises deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus cotées et... Les salariés de Samsung en Corée du Sud, donc, menacés d'une grève de 18 jours, imaginez donc, tout le monde s'en était ému, jusqu'au gouvernement. Et donc, Samsung a réussi à éviter de justesse la grève en question en accordant à 78 000 employés quand même, une prime en moyenne, hein, puisque certains recevront plus, mais une prime en moyenne de 290 000 euros chacun.
C'est énorme.
Donc, ça vaut le coup. Alors, en fait, c'est même pas un record, puisque l'autre géant des
semi-conducteurs,
des semi-conducteurs, qui s'appelle HK Hynix, si ma mémoire ne me fait pas défaut, lui a accordé, et c'est ce qui avait, on va dire, inspiré les salariés de Samsung, avait accordé des primes en moyenne de 400 000 euros à ses salariés.
Ça veut dire que le pauvre mec qui bosse chez Samsung, mais dans la branche réfrigérateur,
eh bien, c'est pour
lui, il n'a pas la prime de 200 000 euros, il est content.
Alors, ce n'est pas 200 000 euros, c'est presque 300 000. Ouais, Et c'est bien pour ça que donc, certains syndicats, mais minoritaires, ont attaqué la décision parce que eux, ils n'ont rien. Voilà.
Ben et vous avez dans la même boîte, c'est un peu raide hein, quand même.
Vous avez bien évidemment les actionnaires, hein, les actionnaires privés de la boîte qui trouvent que c'est quand même pas trop normal de redistribuer l'argent aux salariés et qui donc attaquent également la décision. Cela étant, elle a été votée donc le 27 mai par une grande majorité des salariés, presque trois quarts des salariés qui se sont exprimés, sachant que ce sont les syndiqués qui peuvent s'exprimer dans ce genre de situation. Voilà. Voilà, tout ça pour dire que pour l'IA, c'est voilà, on peut peut-être parler de...
Ah, il y en a qui se portent bien, il y en a qui...
Voilà, on peut peut-être parler de bulles, on ne sait pas jusqu'où ça va.
Ils n'ont pas peur de perdre des salariés, parce que le mec qui a touché 300 000, peut-être il va se barrer.
Alors, c'est précisément pour ça qu'ils leur donnent des primes énormes. Alors, il va y avoir quand même un prix à tout ça, hein, évidemment. C'est que les objectifs de production sont assez ambitieux, voire... impressionnant, et donc ces salariés vont quand même être particulièrement sollicités.
Très bien. Oui, bon, enfin, bon, écoutez, hein, s'ils ont accepté l'argent, voilà, hein, maintenant. Hein.
Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un article, il y a une analyse dans Le Monde. Pour vous donner un ordre d'idée, SK Hynix a atteint donc 1 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 860 milliards d'euros. Et donc, vaut actuellement 4 fois plus que LVMH.
Ah oui, non, mais les semi-conducteurs, en plus, comme la situation pour Taïwan, où ils en produisent aussi beaucoup, est quand même un peu incertaine, oui, j'imagine que la Corée du Sud tire son épingle du jeu. Il y a déjà des gens qui ont dû dire, on va peut-être faire construire dans ce petit pays un peu plus protégé. Ouais, ok, bon. C'est super. Monsieur Kogan est avec nous dans Je m'ennuie bien.
Il paraît, mais ce n'est pas sûr. Rien n'est sûr.
Non, c'est vrai. Rien n'est sûr dans ce vaste monde.
Alors, mes chers compatriotes auditrices et auditeurs de Je m'ennuie bien, comme vous, j'ai hâte de voir ce film sur le symbole de la France, de sa grandeur, de son courage. Ah, comment vous pensez toutes et tous que j'allais parler du film sur le général de Gaulle? Eh bien non, eh bien non. J'attends avec impatience Cocotte du Hongrois Gyorgy Palfy, où on suit une poule héroïque qui s'échappe d'un élevage. Voilà. Bon. Alors, plus sérieusement, alors c'est un vrai film, hein, je suis très sérieux et je pense que je vais vraiment aller le voir. Ouais. Bon, alors ce soir, soyons sérieux, enfin un petit peu, je vous parle de El Ser Querido, l'être aimé en français, du réalisateur talentueux Rodrigo Sorogoyen. Rodrigo Sorogoyen, c'est Que Dios nos perdone, El Reino, Asbestas, mais aussi plusieurs séries réussies. Là, on suit Javier Bardem, en réalisateur célèbre, Esteban Martinez, de retour en Espagne, qui décide de donner à sa fille, qu'il n'a pas vue depuis 13 ans, le rôle principal de son prochain film. Alors évidemment, les choses ne vont pas se passer très bien. Mais en réalité, de quoi parle ce film? Ou plutôt ces films, puisqu'on suit un tournage à l'intérieur d'un film, voilà. Un tournage d'ailleurs d'un film en costume. Et donc, on y voit une actrice qui semble égarée, mais qui tient à garder pied et surtout son indépendance. On y voit un réalisateur, lui aussi, perdu à sa façon et qui s'emporte et emporte ses illusions, d'ailleurs, envolées dans le vent du désert, filmé plutôt bien. Un soupçon de politique avec la question Sahraoui, et la colonisation espagnole, et puis des interactions entre les acteurs qui sont subjugantes. Je n'avais jamais vu une scène comme la scène du début, par son intensité stupéfiante, par son cadrage. Enfin, je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez. Et puis sans oublier les regards, les paysages. Alors, une grosse partie du film se déroule aux Canaries, je crois. Oui, enfin, c'est pas je crois, c'est je suis sûr. C'est pour moi un film très réussi, aux références toutes plus élégantes les unes que les autres. On pense bien sûr à beaucoup de films qui semblent parler de cinéma, mais comme là, disent peut-être tout autre chose. En l'occurrence, parlent des rapports humains, de la transmission, de la modernité, du féminisme aussi. Et donc, ça résonne très fort en cette époque trouble. Voilà, donc du grand cinéma, avec donc Bardem et Victoria Luengo, qu'on avait déjà vu dans Suro ou dans la série Reina Roja, et qui est vraiment géniale par sa justesse de jeu. Alors, avant de parler du deuxième film, quelques mots sur le palmarès du Festival de Cannes. Hein,
Juste, Monsieur Kogan, Asbestas, vous nous en aviez parlé de ce film, non?
Oui, oui, alors, moi j'aime beaucoup Sorogoyen et je vous avais parlé bien sûr d'Asbestas qui se passait en Galice.
Ah oui, c'est ça, je me souviens. Avec des acteurs français, il y a des acteurs français dedans, c'est
oui,
ça?
Oui, et il y avait une actrice. Enfin, là, il y avait des acteurs français et il y a la même actrice française, je vous laisse découvrir, qu'on retrouve dans un petit rôle dans le film dont je viens de parler.
D'accord, merci Monsieur Kogan.
Alors, quelques mots évidemment donc sur Cannes. Bon, alors. Je rappelle qu'il ne s'agit pas des Cannes des petits vieux électeurs très à droite de David Lisnard, mais
bien d'un festival de cinéma. Parfois agitateur, parfois glamour, parfois pas ouf. Et peut-être qu'on est dans le troisième cas cette année. Et oui, parce que si l'affaire Bolloré Canal+ a un peu secoué le bananier, bon, ben voilà. Hein. Donc on s'aperçoit entre autres que Pascal Zadi, Jean-Pascal Zadi, c'est ça, est donc bien plus crétin que Gilles Lelouch, mais ça on s'en doutait un petit peu. Et que certes, Jackson, Streisand, Travolta méritaient certainement d'être honorés. Pour le reste, c'est un petit peu compliqué. Alors, l'ancien assistant de Tavernier sur Capitaine Conan, avec son film Fjord, a donc hérité de la palme, hein, Christian Mingiu. C'est un film qui raconte l'intégration difficile d'une famille roumaine traditionnelle en Norvège, avec un des acteurs préférés de Trump, évidemment je rigole, Sébastien Stan, voilà, puisqu'il l'avait incarné à l'écran. Notre salut d'Emmanuel Marr, tourné en partie à Limoges, reçoit le prix du scénario. Le grand prix va au cinéaste exilé Zia Gintsev, avec un film qui s'appelle Minotaur, et qui parle évidemment de la Russie. Et puis, c'est là où je trouve ça pas ouf, c'est qu'il y a plein d'ex-échos. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre ce concept. Pour la mise en scène, pour l'interprétation féminine et masculine. Bon, ok. Voilà, donc un choix quand même assez éclectique et intéressant, mais voilà, qui a été quand même assez parasité par des polémiques pas toutes très utiles. Alors, deuxième film... John Favreau, vous voyez...
On voit qui c'est.
qui je parle, est le seul capable de passer d'une franchise Marvel à une autre, Star Wars, et de conserver une partie de sa légèreté du début. Oui, dans une industrie qui aujourd'hui est dans le doute et qui en a peut-être bien besoin, certes. Oui, mais voilà. Fallait-il faire un film qui est une sorte de suite aux trois saisons de la série The Mandalorian, fallait-il vraiment? Donc avec ce personnage ultra secondaire hein, dans l'univers Star Wars, voilà, qui ne vaut que parce qu'il est accompagné d'un congénère de Maître Yoda, hein, celui qu'on appelle le bébé Grogu, donc une version jeune et fantaisiste du Maître Jedi. Bon, alors la série était sympa, d'accord, mais bon. Alors, en réalité, Star Wars, on n'y comprend absolument plus rien. Et là, malgré Pedro Pascal, dont on comprend très vite qu'il n'a pas tourné tout le temps, surtout avec un casque sur la tête 95% du temps, et que c'est des cascadeurs qui ont tourné la plupart des scènes, avec certes Sigourney Weaver en commandante de la République, et puis quelques bonnes idées, hein, quelques bonnes intentions, c'est sûr. Enfin... Si vous attendez un minimum de politique, comme dans Rogue One, ou de métaphysique qui sous-tend la vieille trilogie, eh bien, vous en saurez pour vos frais. Voilà. Alors, c'est même pas du fan service, hein. C'est juste un spectacle bien fait, mais globalement assez inutile. Bon, je retournerai quand même le voir une deuxième fois, mais ça c'est mon problème à moi. Alors, le pitch, quand même, parce qu'il y a deux lignes de scénario. Donc, on suit Din Djarin, hein, le fameux Mandalorian, qui est donc une caste guerrière assez impressionnante, alors qui traque donc les dignitaires en fuite de l'ancien empire pour le compte de la Nouvelle République. Et donc, il va devoir délivrer un hut et continuer à veiller sur son petit compagnon, à moins que ce ne soit l'inverse. Voilà, donc en gros, si vous avez 14 ans, c'est parfait pour vous. Voilà.
Pourquoi vous donnez votre âge, monsieur Kogan ?
Ah, c'est ça ! Je pense que vous n'irez pas. Ni l'une ni l'autre. Alors, tout autre chose, le 1er juin 1857, qu'est-ce qu'il s'est passé ?
1er juin 1857. En France ?
Absolument.
Moi, je crois que j'avais perdu une chaussette ce jour-là.
Alors, pourtant, ça vous concerne, hein, vu...
Merci, monsieur Coquet.
Vu la profession qui est la vôtre.
Ah, bon, alors, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est l'école devient quelque chose ?
Non, pas en 1857.
Bah, je sais pas.
C'est bien trop tôt pour la première enseignante femme.
Ah oui, oui, bien trop tôt, oui.
Ben, je ne sais pas, M. Cogan, qu'est-ce qui s'est passé en 1857
1857, bon, Victor Hugo avait 55 ans, mais c'est neutre. Ah.
Ben, alors, oui. alors Bon, vous ne savez pas.
Non, ben non on ne sait pas. C'est... 1857, on ne se souvient pas, c'est quand même vachement loin. Hein.
Ah. Première parution des Fleurs du Mal.
Ah oh oui, d'accord, oui, oui, ok. Ah oui, c'est pas, ça n'a pas à voir avec mon métier, ça a à voir avec les gens cultivés, ce que nous ne sommes pas. Okay.
Oh, de grâce. Alors, et voilà. Et donc, je souhaite un joyeux anniversaire en avance ce 1er juin à Brian Cox, acteur écossais que j'aime beaucoup pour ses 80 ans, donc à venir, et à la chanteuse que vous connaissez peut-être, mais moi absolument pas, Ami Maeda, pour ses 31 ans. Alors, son groupe, c'était AKB48. Bon, je...
D'accord, c'est bien pour elle.
Donc c'est de la J-pop, mais je ne sais même pas de quoi il s'agit.
Alors non, nous non plus.
Bon, ben d'accord, très bien. Je vois que je ne suis pas le seul. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le temps pour quelques dates ?
Oui, nous avons le temps pour quelques dates.
Alors, il y a plein d'événements qui se précipitent en cette fin de, en cette fin d'année, évidemment. Plein d'événements. Qu'est-ce que je peux vous annoncer ? Donc, évidemment, j'avais parlé la semaine dernière donc des événements du 29-30 mai. Peut-être en avais-je oublié, mais globalement, j'avais parlé du festival Rock Metal Camp et je ne vois l'intérêt de d'annoncer rien d'autre ce week-end-là. Non. Bon, alors,
vous êtes un petit peu partial.
En tout cas, ils vont avoir chaud, hein, c'est bien. Ils vont...
Oui, on va avoir très chaud. Alors, le samedi, il y a quand même la 12e édition de Fête des Livres, hein, festival donc de littérature jeunesse à Saint-Junien, donc à la Halle des Congrès de Saint-Junien. J'avais annoncé donc tout un tas d'événements à la Galerie des Hospices autour de l'Ukraine, à Limoges, et puis le spectacle « Ce qui nous lie » à la Chapelle de la Visitation. Donc ça, c'est le matin, le samedi matin, le samedi 30 mai. Donc c'est du chant choral, de la poésie, de la danse, etc. Et puis j'avais aussi annoncé le concert de Sam Sauvage à Tulle. Donc un bal traditionnel le dimanche que je cherche le bon endroit.
Oui, mais effectivement, vous avez, c'est vrai, vous l'aviez aussi annoncé la semaine dernière. Il faut quand même voilà. Que les gens prennent des notes parce que sinon on s'en sort
absolument,
plus.
Absolument, on s'en sort plus. Alors. Pour la semaine prochaine, Pierre Thévenoud sera à Limoges. Alors, chacun se fera son avis sur cet humoriste, parfois un peu critiqué à juste titre, je crois. Mais c'est mardi à 20h à l'Opéra de Limoges. Olivier de Benoît, décidément, on reste dans l'humour et les personnages qu'on peut critiquer aussi largement. Et donc, il sera. Donc, il y a deux soirées humoristiques à l'Opéra. Donc, c'est le lendemain, le mercredi 3 juin. Mercredi 3 juin. Le groupe King Kong Blues sera au Limoges à 20h30. Et puis le groupe Solaz, donc deux jours après, le vendredi 5 juin, au même endroit. Dirty Rodeo jouera eux aussi, joueront.
Oui, c'est un duo. À partir de deux, en effet, c'est du pluriel.
Joueront eux aussi, et j'annonce cette date parce que cela vous intéresse peut-être, puisque c'est au Upstage. Ils viennent le 5 juin.
D'accord, voilà. D'accord.
Voilà, donc c'est à Guéret, voilà, cette ville que vous connaissez peut-être, le 5 juin à 20h au Upstage. Un apéro libre donc avec Gérard Gonfroy à 20h30 à la librairie Occitane ce vendredi 5 juin. Et pourquoi il y a un apéro comme ça ? C'est parce que le 5 juin, c'est l'IRA Limoges. Alors, l'IRA Limoges, cette année, outre le fait que c'est dans un lieu un petit peu étrange qui s'appelle le manège, enfin bref, qui est l'ancien garage des véhicules de la ville, hein, c'est un peu bizarre. Et donc, cette année est présidée par Philippe Besson. Alors, certes, on a beaucoup d'événements, des cartes blanches, donc des événements avec des interviews, des conférences, et quand même, on peut dire qu'il y a des choses assez intéressante. Alors, j'en veux pour preuve, quand même, je vais citer deux rendez-vous absolument intéressants. Le vendredi 5 juin, il y aura un grand entretien avec Marilène Patoumatis, qui est une préhistorienne. Et c'est à 17h à l'Hôtel de Ville. Et une préhistorienne vraiment passionnante parce que, bah, elle réhabilite la place de la femme et la place des animaux par rapport à l'homme dans la préhistoire. Et puis, le lendemain, il y a un grand entretien avec Sorge Chalandon. Donc voilà, c'est à la BFM et c'est à l'espace Clancier. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, ben, il y aura plein d'autres événements, mais j'avais envie d'insister sur ces deux-là. Évidemment, il y aura un entretien plus spécifique avec le président de cette année, qui s'appelle donc Philippe Besson. Voilà, alors j'avais parlé de Vin Noir qui a lieu le week-end du 29-30, donc juste avant. Ça fait deux événements littéraires dans la même ville, coup sur coup, mais avec des objectifs et des intérêts différents. Pareil, j'avais parlé peut-être des événements aux saisons du Vieux Château. En tout cas, ça m'arrive tous les ans de parler de ces endroits. Et là, le 30 mai, il y a le Cabaret Canaille. Mais le 5 et 6 juin commence un festival de danse. Enfin, c'est le deuxième. J'avais parlé du premier l'année dernière. Donc, un festival de danse, c'est assez original. Donc, quand je parle du château, du Vieux Château, évidemment, je parle de Vic-sur-Breuil. Donc, le 5 et 6 juin, un festival de danse avec plein d'événements autour de la danse, pas seulement des spectacles. Voilà, mais je pense que les gens viennent voir des gens danser et c'est pas si mal d'aller voir parfois des choses intéressantes autour de cet art qui est peut-être moins valorisé que d'autres. La semaine prochaine, c'est aussi un événement important, en l'occurrence le festival Au bout du compte, qui a lieu pendant 12 jours en réalité, qui commence donc le mardi 2 juin à l'espace Noriac à Limoges avec le spectacle Peau de bonbons et autres histoires d'appétit. Voilà, et donc il y a des spectacles à Limoges, certes, mais aussi à Nexon, à Saint-Thierry-la-Perche, à Saint-Méard, à Champnétry, Saint-Jean, Bessine, L'Odorat, etc. etc. Donc c'est toute la semaine et la semaine d'après. Où ça se déroule jusqu'au vendredi 12 juin, ou même dimanche 14, je suis bête, jusqu'à dimanche 14. Donc voilà, un festival que j'aime beaucoup, donc Au bout du compte. D'autres spectacles à venir aussi, puisque c'est la semaine des collèges, avec des spectacles des ateliers théâtre des différents établissements, hein, que ce soit l'établissement de Donzelot ou l'établissement Ventadour, Palissy, etc. Et les lycées aussi. Donc, ils font tous leurs spectacles de théâtre. Ça se passe à Noriac et à la Visitation. Et donc, ce sont différentes pièces, y compris une façon un peu rigolote d'aborder des classiques, avec une mise en scène, par exemple, de Morgane Kabiri, qu'on connaît bien à Limoges, peut-être pour autre chose que le théâtre. Et donc, avec l'atelier donc, de Donzelot, avec Gretel et Hansel. Voilà. C'est le 1er juin à 20h à l'espace Noriac. Voilà. Il y a plein d'autres choses à voir dans le cadre de ce petit, on peut dire aussi, de ce petit festival. Voilà. Autre chose peut-être à la Souterraine.
Allez-y, à la Souterraine.
Allons à la Souterraine.
Allons à la Souterraine, où il y aura un spectacle de magie et de théâtre. Alors, je parle de ça parce que Les Chevaliers d'Industrie, hein, c'est le nom de cette compagnie. Moi, j'adore ce spectacle. J'ai vu un des spectacles, en tout cas, de cette petite compagnie. Et je ne sais pas s'il va changer le spectacle par rapport à la dernière fois, mais je suis un grand, grand fan de cette petite équipe. Voilà. Et donc, ça se passe le jeudi 4 juin à 21h au Microfolie de la Soute. Ça s'appelle Las Vegas Éternel par la compagnie Les Chevaliers d'Industrie. Alors, je vous jure que vous ne regretterez pas de vous être déplacé. C'est gratuit, ça dure 50 minutes, jeudi 4 à 21h à la Soute. Qu'est-ce que je peux vous annoncer d'autre? Eh bien, écoutez, à Guéret, c'est le concert de printemps, samedi 6 juin 2026. avec l'harmonie de Guéret, donc dirigée et la Société philharmonique de la Souterraine. Alors, je ne savais pas qu'il y avait ça, moi, en Creuse. Et donc, c'est dirigé par Élodie Côté. Voilà, donc la Société philharmonique aura 140 ans en 2026. Ben, comme quoi, voilà, donc ça se passe à l'espace André Lejeune à 20h30, samedi 6 juin. Parmi les autres événements dont je n'ai pas parlé, il y a quand même un gros événement à Limoges autour de la musique, puisque Elysian Fields vient vendredi 5 juin à 20h30 à John Lennon.
Des petits jeunes qui débutent.
Ouais, des petits jeunes, voilà. Donc, c'est quand même un gros truc avec Flora Hibbert, donc j'imagine en première partie. Il y aura un concert au Dropkick, donc Tom Bullett, plus… ah oui, 10 juin. 10 juin, c'est très bien. Donc voilà, c'est samedi à 20h30 aussi. Le groupe Color Pourpre jouera au cabaret XL. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, écoutez, je vais terminer à Tulle avec un truc que je ne connaissais pas non plus, mais je trouve que c'est intéressant, évidemment, dans le cadre des événements liés à la cause LGBTQIA+. Eh bien, puisque c'est le mois des fiertés, le mois de juin, eh bien, il y a une soirée qui s'appelle « Des fiertés qui chantent ». Ça se passe au lendemain qui chante, bien entendu, à Tulle, et donc le samedi à 6 juin à 20h30. Donc là, vous aurez une conteuse, du stand-up, du spectacle, drag show, tout ce que vous voulez, et puis évidemment un bon gros DJ set pour finir la soirée. Donc voilà, ça va être très sympa pour finir la semaine. Des fiertés qui chantent à 20h30 le samedi 6 juin. Voilà, c'est tout pour moi.
Ah mais c'est très bien, Monsieur Cogan, ça suffira bien pour nous occuper. Eh bien, on va se dire au revoir et puis hydratez-vous et à la semaine prochaine.
Oui, la semaine prochaine, peut-être si on arrive à survivre à celle-ci.
Et planquez vos boules. Hein.
Oh, monsieur Edmond, vous couperez ça au montage. Hein.
J'ai passé des nuits sans lune à chercher la taverne dans mon cœur, tout comme autant des fleurs où l'on vivait sans peur, où chaque jour avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait. Prendo